Qu'est-ce qu'une queue de canard et une voiture peuvent bien faire ensemble ? Ce matin, en me levant, je savais déjà que la journée serait différente. Différente parce que le ciel londonien laissait présager d'une météo toute britannique, mais aussi parce que j'allais avoir l'occasion de conduire quelque chose que j'avais entendu être unique. En arrivant sur le parking de l'hôtel, j'étais déjà dans un autre monde. Un monde qui me propulsait immédiatement dans le milieu des gentleman drivers et autres collectionneurs de voitures classiques. Imaginez, vous arrivez sur un parking bondé de voitures de collection. Pas des voitures de collection version Matchbox ou 1/36e avec lesquelles je jouais dans le bac à sable devant la maison quand j'avais encore besoin que quelqu'un me surveille pour pas que je mette le sable dans la bouche. Non, des vraies voitures de collection. Des véhicules qui sont sortis d'usine quand vous n'aviez pas encore votre permis de conduire et pour certains, vous n'étiez même pas né. Me voilà donc en train de tourner autour de la DB5 de ce bon vieux 007. Une Aston Martin dans un état tellement parfait qu'elle donnait l'impression qu'elle sortait d'usine. J'inspectais d'ailleurs soigneusement les environs pour voir si par hasard, Lord Sean Connery n'était pas dans les environs. Mais après m'être assis à l'intérieur et chercher en vain le bouton du siège éjectable, j'ai rapidement compris que ce n'était pas la sienne. Après avoir vérifié les trois autres DB5 du parking, j'ai rapidement et malheureusement éliminé tout espoir de voir James Bond ce samedi. Mais le rêve ne s'arrêtait pas là. À ma droite, une série de Jaguar type E, dont une version tout alu pour la course, capot ouvert et moteur que même ma table de cuisine n'est pas aussi propre. À ma gauche, la Ferrari Dino de Danny Wilde, dont amicalement vôtre, et trois pas plus en arrière, l'Aston Martin de Lord Brett Sinclair, dans la même série. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes né dans une génération trop tard ou que vous êtes un de mes fils. Je peux largement concevoir qu'une voiture se résume à quatre roues, un volant, un siège qui vous trimballe du point A au point B. Personnellement, c'est exactement ce que je pense, n'ayant ni la fibre collectionneur, ni l'envie de me tatouer la marque d'une voiture sur l'avant-bras. Mais il faut tout de même reconnaître que quand vous arrivez sur un parking sur lequel trône une trentaine de voitures et que pour vous mettre dans l'ambiance, on vous dit qu'il y en a pour environ 25 millions de livres sterling, ça calme et ça remet les choses en place. Même si la livre n'est plus ce qu'elle était depuis l'avènement du Brexit, ce n'est pas non plus la première concession Dacia venue. Je l'avoue, pendant plusieurs minutes qui, bout à bout, devaient bien faire une heure entière, j'ai erré, là, entre ces voitures qui me faisaient bien comprendre qu'il y avait un monde de collectionneurs là-dehors que je ne connaissais pas et dont je ne faisais pas partie. Même si ma Volvo, ses 140 000 km et ses bunes dans tous les coins se rapprochent gentiment de la collection, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Devant moi se tenait un musée de l'automobile dans un état parfait. Les Anglais n'ont peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais ils savent comment valoriser ces trésors sur 4 roues. Ferrari Daytona, Ferrari 250 GT, SWB, Mercedes 300 SL, Ferrari 250 PF Cabriolet, ou encore Jaguar XK150, ou même une Iso Rivolta, sans compter le nombre de Porsche 911 ou même de 356 Speedster. Difficile de rester focus sur une seule voiture, et encore plus difficile d'en choisir une seule. Heureusement que l'organisation m'avait désigné un véhicule d'avance, sinon je serais resté toute la journée sur le parking en essayant de faire un choix. Je tiens à préciser que je fais le malin en vous lançant des types de voitures comme si je savais ce que c'était. Mais avant d'arriver là-bas et d'avoir le catalogue en main, je n'en avais aucune idée, sauf pour celle qui avait tenu le premier rôle dans Goldfinger ou dans un épisode d'une série télé oubliée. Il y avait d'ailleurs une Range Rover Defender qui avait dû jouer dans Daktari. Alors que je tournais autour d'une Ferrari 250 GT SWB en me demandant sincèrement comment je pourrais la faire disparaître et la ramener en soute lors de mon vol british du lendemain, un des membres de l'organisation me tapa sur l'épaule. Ma réaction fut immédiate, comme s'il lisait dans mes pensées, je clamais immédiatement mon innocence. Mais il ne voulait que me remettre les clés de la voiture qui m'était destinée. C'était donc là que la seconde partie de cette journée de rêve commençait. Sur le porte-clés de la voiture, il y avait un cheval cabré, mais pas un de Maranello, un de Stuttgart. Pas le même bruit, pas le même look et pas le même cheval, quoi. Même que d'ailleurs, c'est une jument. En ce jour d'été, j'allais donc conduire une Porsche Dolite 7 RS de 1972 durant toute une journée. Pour être franc avec vous, avant de monter dedans et de googler Porsche 911 de Dolite 7 RS, je pensais simplement monter encore dans une autre banale 911, sachant que dans les rues de Genève, il y a bientôt plus de 911 que de Mini Countryman, dépendant des bonus payés dans les banques au mois de février. J'étais d'ailleurs limite déçu, sachant toutes les Aston Martin et autres Jaguars qui me tendaient les pattes à bout touchant. C'est en finissant de googler que je commençais à avoir les mains moites, les jambes tremblantes et la goutte de transpiration qui coule le long de la colonne vertébrale. Cette dernière n'était pas là à cause des rayons de soleil qui perçaient en ce matin blême tout britannique, non, mais c'était surtout parce qu'en lisant la description du bolide dans lequel j'étais assis, je me rendais compte qu'il valait pas loin d'un million d'euros. Visiblement, j'étais en train de réaliser un rêve de gosse de la plupart des porschistes du monde. Alors évidemment, ce n'est pas la chose la plus intéressante si vous êtes un collectionneur convaincu, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Surtout que si je finissais en frontal dans un giratoire, parce qu'en plus, en Angleterre, ils ne roulent pas dans le même sens, j'aurais beaucoup moins de plaisir à rédiger cette chronique, voire à prendre mon avion, surtout si je finis accroché au mur d'une cellule de la Tour de Londres pour reckless driving et destruction de voitures de collection. Infraction qui doit au moins être punie par une ingurgitation répétée de gigots à la menthe jusqu'à que mort s'en suive. À ce stade, je vais vous passer la description de la Porsche de l'I7RS, tout d'abord parce que n'importe quel site automobile sur le sujet le fera sûrement mieux que moi, et que pour être franc, la genèse de la frénésie qui tourne autour de cette voiture en particulier me passe un tout petit peu au-dessus de la tête, même s'il faut reconnaître qu'elle devient rapidement attachante. Je vous laisse donc aller sur Wikipédia pour avoir tous les détails sur l'historique de ce mythe pour les fans de Porsche. De toute manière, pas besoin d'en savoir trop, surtout quand le propriétaire du véhicule vous remet les clés et vous explique les détails de base et que l'on sent bien que s'il vous remettait son fils ou sa fille, il n'en serait pas moins stressé. Sachez juste qu'il n'y a que très peu de 2 litres 7RS, qui sont quasiment des voitures de course de l'époque, et que si vous croisez un fanatique de la marque et que vous lui dites qu'elle est moche, il va vous casser les deux genoux avec un cric. Et puis alors, si vous voulez briller en société et faire genre le type qui s'y connaît en Porsche, vous pouvez toujours parler de l'aileron en queue de canard. Ce terme désigne l'aileron arrière de la 2 litres 7RS, il est typique de ce modèle, et les porschistes se liquéfient rien qu'en en parlant. Alors ça fait toujours bien à placer lors d'une soirée au voile à Genève, entre « j'ai gagné 20 millions en traitant du Facebook l'an passé » ou « je suis le meilleur trader de Genève », vous rajoutez « j'ai conduit une 911 2 litres 7RS avec l'aileron queue de canard » et votre soirée sera réussie, je vous le promets. La 911 que l'on m'a remis religieusement est un modèle Touring, une version civilisée par rapport à l'autre qui, selon mon enquête, est quasiment introuvable et donc sûrement encore plus chère. Le stress du prix de celle-là était déjà largement suffisant pour moi. À l'intérieur du cadre de porte, côté conducteur, il y avait un numéro, le 8, ce qui signifie que c'était la 8e de tous les temps. Retranspiration le long de la colonne vertébrale, mais cette fois d'émotion. Finalement, cette journée qui devait être unique devenait carrément stressante et angoissante, vu que moi, la dernière voiture que j'avais conduite, c'était une Hub GTI qui valait 20 000 balles, toute option et neuve. Et personne ne m'avait donné son numéro de matricule. Soudainement, j'avais l'impression que ça devenait personnel entre elle et moi. En allumant le moteur, je comprenais rapidement que la journée sur les routes du sud de Londres serait extrêmement longue, surtout au niveau du bruit. 210 chevaux pour un peu plus de 1000 kg, ça peut paraître ridicule de nos jours, alors que la moindre Audi de haut de gamme frise déjà les 400 chevaux. Mais en 1972, quand la RS est sortie, un an après que moi-même je sois sorti d'usine, c'était énorme. Son rapport poids-puissance et son agilité feront le reste. Les premiers tours de roue furent un peu compliqués, car bien que mon destrier du jour ait été créé pour la France et avait donc le volant à la bonne place, la même place que d'habitude, les routes, les feux et les giratoires étaient tous à l'envers. Le bruit était donc là. Aucun doute sur le fait que le moteur fonctionnait parfaitement, l'intérieur était rutilant. Pas besoin de chercher le GPS ou l'autoradio, pas le style de la maison. Mais il y avait un toit ouvrant. Il faut l'utiliser avec parcimonie parce que vu le temps qu'il met à s'ouvrir et à se refermer, à la moindre averse, vous avez le risque d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Pour le sentiment de conduite, je dois dire que l'on oublie rapidement la valeur de la voiture et que l'on se concentre sur le rétrogradage qui fait hurler le moteur et l'accélération étonnamment rapide qui permet de dépasser à peu près tout ce que l'on veut du moment où l'on a compris d'où vient le trafic. Après quelques miles, la Porsche devient, comme toutes les Porsche, assez facile à prendre en main, même si celle-là a un passé historique un peu plus pesant que la Porsche moyenne du banquier genevois. Rapidement, on se sent propulsé dans le passé, d'autant plus que la campagne britannique vous donne souvent l'impression d'être resté bloqué 20 ans en arrière, sans compter que, comme je participais à un rallye historique, autour de moi, il n'y avait que des voitures qui n'ont rien à voir avec ce que l'on croise de nos jours au parking du centre commercial. Là-bas, pas de Hyundai, pas de M3, pas de Mercedes GLC. J'ai roulé 80 miles derrière une Mercedes 300 SL avec des porte-papillons. Alors pas parce que j'arrivais pas à la doubler, mais juste parce que c'est trop beau et trop rare à voir rouler. Petit détail de la 2 litres 7 RS, quand le moteur chauffe trop, il cale. Il faut donc reconnaître que c'est moyennement agréable de devoir redémarrer à chaque feu, chaque stop, sans compter qu'il faut en plus regarder à droite à la place d'à gauche pour voir arriver le trafic. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Le fait qu'elle cale est énervant, mais en même temps, avec des voitures dites classiques, ce qui est bien, c'est qu'on leur pardonne tout. Si votre Peugeot 5008 diesel acquise la semaine dernière vous faisait la même chose, vous auriez déjà envisagé environ une douzaine de moyens différents d'assassiner votre vendeur avant même l'arrivée du mécano du TCS. Mais autrement, il faut reconnaître que rouler dans une de ces vieilles dames est plus que génial. Soudainement, toute la modernité dont on nous gave tous les jours, les écrans tactiles, les configurateurs de conduite, les GPS, la climatisation automatique individuelle, y compris celle de la boîte à gants et du coffre pour le chien, les 12 poses gobelets et le tissu antidérapant dans le vide-poche, ça c'est chez Dacia, deviennent soudainement profondément inutiles et on a juste envie de retourner à la conduite pure. Se battre avec une boîte à vitesse qui vous fait comprendre que vous vous êtes raté avec l'embrayage, le moteur qui rugit à fond de deuxième et le châssis qui se tord sous l'effet de la puissance moteur qui se distribue un peu comme ça vient. Mais la vitesse et l'accélération sont là. Le bruit vous rappelle en permanence que vous n'êtes pas en panne. Pendant cette journée dans le countryside britannique, j'ai eu le sentiment d'être loin du monde qui est le mien. Un monde du passé, fait de voitures d'époque et de garden parties où il y a des trucs bizarres à manger et du champagne à boire. Pendant 24 heures, vous vous retrouvez dans une ambiance qui n'existe plus et vous conduisez des voitures qui viennent d'une autre époque et vous vous dites inévitablement que franchement, c'était mieux avant. Je voudrais remercier l'organisation du Hope Classic Rally pour avoir eu l'occasion de passer ces quelques heures d'exception qui donnent juste envie d'aller fouiner sur internet pour trouver un vieux truc à racheter et à bricoler. Et puis vous vous dites que vous avez deux mains gauches et que finalement votre Audi A3 dernière génération, toute option, eh ben c'est pas mal aussi.